Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin.
Je vous consulte directement.
Le référendum sert-il à quelque chose?
Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu.
J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum.
Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République.
Sud Radio.
9h-11h.
On aurait souhaité qu'il y ait un référendum.
Le grand référendum.
Dimitri Pavlenko.
Bonjour à tous, bienvenue à vous tous en ce lundi matin sur Sud Radio, apprendre et comprendre. Le grand référendum, vous n'avez plus la parole, Sud Radio vous la redonne. Le grand référendum ce matin, est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Deux voix importantes se sont prononcées en faveur de cette idée la semaine dernière. Tout d'abord, David Cameron, le Premier ministre britannique, qui veut limiter la mobilité dans l'Union pour réduire le flot de clandestins qui arrivent chaque jour en Grande-Bretagne. Et puis, il y a eu également Nicolas Sarkozy, qui propose une grève de Schengen. En gros, rétablir les barrières aux frontières pour empêcher n'importe qui de venir s'installer en France. Nos voisins qui viendraient ou qui laisseraient venir en France des travailleurs moins chers que nous et des candidats à nos prestations sociales plus élevées que la moyenne européenne. On peut circuler librement dans toute l'Union quand on est citoyen d'un État membre. L'Europe, marché unique où on peut s'installer où on le souhaite. Mais de cette liberté de circuler, certains retiennent surtout qu'elle permet à l'Europe des pauvres, d'envahir l'Europe des riches. Qu'une fois débarqués à Lampedusa ou Malte, les clandestins sont dans Schengen et peuvent passer facilement d'un État à un autre en l'absence de douanes fixes aux frontières. La liberté de circuler qui favoriserait enfin le dumping social en permettant aux patrons indélicats de recourir facilement à ces travailleurs détachés qui coûtent moins cher que les nationaux. Alors, faut-il réduire la liberté de se déplacer dans l'Union? Moins bouger, moins d'Europe. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite aussi que cette liberté de circuler, eh bien, c'est aussi Erasmus par exemple. Est-ce qu'il faut restreindre la libre circulation en Europe? C'est la question du grand référendum ce matin, bien évidemment. Vous votez sur sudradio.fr, vos interventions à l'antenne également au 0826 300 300 15 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages par SMS Sud, un espace, votre message au 71 200. Et bien sûr les réseaux sociaux, la page Facebook de Sud Radio ou sur Twitter avec le hashtag Sud Radio.
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre ce matin. Est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Vous votez sur sudradio.fr, vous prenez la parole à l'antenne également. 0826 300 315 centimes la minute. Et puis vos commentaires également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vos messages avec le hashtag Sud Radio ou bien sur la page Facebook de l'émission. On lira tout ça bien évidemment. Nos invités ce matin, je vous les présente. Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors. Bonjour monsieur Bertoncini.
Bonjour.
L'Institut Jacques Delors, en gros, un groupement d'études et de recherches pour renforcer l'intégration de l'Europe. Et face à vous, Dominique Jamais, vice-président de Debout la République. Bonjour Dominique Jamais.
Bonjour.
Alors Dominique Jamais, j'en parlais en lancement, cette grève de Schengen à laquelle Nicolas Sarkozy pense pour réduire l'arrivée de clandestins en France, de travailleurs qui font du dumping social. Vous souscrivez à cette idée, Dominique Jamais, au sein de Debout la République? Ça vous paraît être une bonne idée pour restreindre la liberté de circuler en Europe?
C'est une idée, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que l'Europe, l'idée de venir s'installer, travailler en Europe, représente un fantastique appel d'air pour les populations du tiers-monde ou les populations de pays actuellement en crise ou en guerre, et que l'afflux de ces étrangers à l'Europe dans la période de crise et de difficultés que vivent beaucoup de pays, en particulier la France, c'est quelque chose à quoi il faut remédier. On pourrait imaginer, mais c'est plus ambitieux évidemment, et Nicolas Sarkozy n'a pas pour l'instant envisagé cela, on pourrait envisager que l'Europe, que les pays développés aident les pays moins développés, moins riches, à se développer, à progresser, de façon que les gens ne soient plus chassés par la misère de chez eux, ne soient plus obligés d'émigrer. Ce serait plus ambitieux et ce serait plus satisfaisant.
Alors Dominique,
dans l'état actuel des choses, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose pour limiter les flux migratoires venant de l'extérieur de l'Europe.
Alors justement, est-ce qu'on parle de la liberté de circuler en Europe? C'est précisément la cible de Nicolas Sarkozy. C'est également ce qu'a dit David Cameron, le Premier ministre britannique, la semaine dernière. Est-ce qu'en fait le problème principal, ce n'est pas les frontières de l'Union plutôt que la liberté de circuler dans l'Union une fois que l'on y est, quand on est citoyen d'un État membre, Dominique Jamais? Est-ce qu'on ne se trompe pas de problème?
Ah ben, ce sont deux problèmes tout à fait différents. Opposer des barrières ou des contrôles plus rigoureux que ce n'est le cas à l'heure actuelle à l'afflux, je vous le répète, de gens qui viennent d'un espace extra-européen, de l'extérieur, c'est une chose. Restreindre la liberté de circulation des ressortissants, des citoyens des États membres de l'Union européenne, c'est tout à fait autre chose. Et, mais je pense qu'on va en parler, tout dépend de ce que l'on entend par la liberté de circuler.
Alors justement, Dominique Jamais, qu'est-ce qu'on entend par liberté de circuler précisément ?
Eh bien, si l'on parle d'échange culturel, si l'on parle de tourisme, si l'on parle de voyage, il est évident qu'il n'y a pas lieu, bien au contraire, de rétablir, d'opposer des barrières à cette circulation, à cette compréhension, à cette imbrication entre membres de tous les pays de l'Union européenne. C'est tout à fait autre chose s'il s'agit de s'installer dans un pays qui n'est pas le sien et de venir y travailler. Et de ce point de vue, et si l'on considère ce deuxième aspect des choses, je suis partisan effectivement d'un contrôle par les États du flux de travailleurs étrangers ou de mendiants étrangers ou de voleurs étrangers qui n'apportent rien au pays dans lequel ils souhaitent séjourner.
Alors, pour reparler très concrètement, il existe des chiffres aujourd'hui. 2,6% des Européens vivent dans un autre pays de l'Union que le pays dont ils sont originaires. 2,6%, ça représente quand même 14 millions d'Européens qui ont fait le choix d'aller s'installer dans un autre pays de l'Union que le leur. Cette part monte jusqu'à 38% dans certains pays. Là, on pense au Luxembourg, par exemple, où 38% des résidents du Luxembourg viennent d'un autre pays de l'Union Européenne. En France, on est aux alentours de 3%. Et ce qui ressort de ces chiffres, contrairement à l'opinion intuitive que l'on a, c'est de se dire que ces gens viennent profiter de nos prestations sociales. C'est ce que disait par exemple Nicolas Sarkozy. En réalité, la plupart du temps, ce sont soit des gens qui viennent chercher du travail en France, qui en trouvent et qui donc contribuent à la prospérité nationale, mais aussi plus souvent, et on n'y pense pas assez, à ces retraités qui viennent en France pour le soleil. On pense à ces retraités britanniques, par exemple, qui s'installent dans le sud du pays. C'est difficile quand même d'avoir une vision simple de cette population qui vient circuler et qui vient surtout s'installer en France, Dominique Jamais.
Vous avez tout à fait raison, c'est du bon sens. Il est évident que les problèmes que pose ou les satisfactions que cherche soit un touriste, soit un retraité ne sont pas les mêmes que ceux d'un demandeur de travail. Vous savez, la quasi-totalité des pays du monde, qu'ils soient démocratiques ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient prospères ou qu'ils ne le soient pas, la quasi-totalité des États dans le monde tiennent à exercer un contrôle sur la quantité, la qualité, les souhaits de ceux qui, venant de l'étranger, souhaitent séjourner de façon durable chez eux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, qui ne sont pas, que je sache, des pays fermés ni des pays dictatoriaux, l'État fait le maximum. Sans grand succès aux États-Unis, avec succès au Canada ou en Australie, pour essayer de réguler l'afflux d'étrangers, de travailleurs étrangers. Il y a une différence entre être étudiant à Sydney, à Melbourne ou à Harvard ou à, enfin, vous voulez, dans des pays étrangers, et chercher du travail. Le permis de séjour, la carte de travail sont accordés, suivant des critères qui varient suivant les pays, sont accordés avec parcimonie, avec sérieux. Eh bien, il serait tout à fait raisonnable qu'il en soit de même en France.
Parce que ça n'est pas le cas, d'après vous, aujourd'hui. On n'est pas assez regardant sur la délivrance de ces permis de travail en France quand on vient d'ailleurs en Europe ?
Ça ne fonctionne pas, vous le savez, ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis ou comme au Canada. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers dont l'apport est nécessaire et dont la présence est positive. Et puis, il y en a d'autres qui profitent à l'heure actuelle de... ils n'en sont pas responsables, mais ils profitent de failles de la loi. Les travailleurs détachés qui travaillent sur des chantiers de bâtiments, par exemple en France, ou les transporteurs routiers qui payent des cotisations sociales suivant le régime du pays d'où ils sont issus et non pas conformes aux lois françaises ou aux pratiques françaises, sont des concurrents, pratiquent une concurrence qui est déloyale, qui est faussée par rapport aux travailleurs français. Et puis, vous savez, on s'est moqué ou on a critiqué, et on avait raison parce que c'était inspiré souvent par la xénophobie. On a moqué ou on a critiqué à un certain moment les slogans du du Front National, voire du Parti communiste, qui craignaient que des gens venus d'ailleurs prennent la place de gens de chez nous, de nationaux. Mmh. Or, il est exact à l'heure actuelle, il y a, si je ne me trompe pas, vous me rectifierez si je me trompe, il me semble qu'il y a un problème de chômage en France et qu'il faut être sourcilleux, plus qu'on ne l'est à l'heure actuelle dans ce pays, mmh. sur le remplacement éventuel de demandeurs d'emploi français par des travailleurs étrangers.
Ah non, je ne vous contredis pas sur le problème du chômage en France, ça c'est clair.
Merci. Jamais. Merci.
Dans un instant, nous allons donner la parole à notre second invité, Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe, l'Institut Jacques Delors. Vous êtes dans le grand référendum, je vous rappelle la question du jour. Faut-il restreindre la liberté de circuler en Europe? Vous votez sur sudradio.fr, vos commentaires également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Sud Radio. Et n'hésitez pas à nous appeler, vous avez la parole sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre, 0826 300 315 centimes la minute.
Sud Radio,
le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, Apprendre et Comprendre, faut-il restreindre la liberté de circuler en Europe? 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir à l'antenne. Et vous votez bien évidemment sur sudradio.fr pour l'heure. Vous êtes partagé à 50-50 entre le oui et le non. Nous sommes avec Dominique Jamais, vice-président de Debout la République, et Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors. Bonjour monsieur Bertoncini.
Bonjour.
Alors, ce débat autour de la liberté de circuler en Europe, est-ce qu'il faut la restreindre? C'est un débat bien qui monte en Europe depuis quelques années, à la faveur, il faut bien le dire, de la crise, mais également du dernier élargissement de l'Union à 28. Ce que l'on constate, c'est que effectivement, la mobilité en Europe, eh bien, historiquement, c'est l'un des piliers de l'Union européenne. C'est un des éléments clés de notre citoyenneté européenne. En tant que directeur de l'Institut Jacques Delors, vous constatez aujourd'hui cette remise en cause à l'échelle de l'Union, de la liberté de circuler, Yves Bertoncini?
On la constate dans certains pays, pas tous, hein, si vous tournez vers la Pologne, qui est un pays qui va pas mal et qui exporte pas mal de ses nationaux ailleurs, il n'y a aucune mise en cause de la libre circulation des personnes naturellement. Dans certains pays en crise, on la constate, il y a des tensions. Vous avez cité le Royaume-Uni, vous avez aussi parlé de la crise que nous connaissons. C'est vrai qu'au Royaume-Uni, on parle plus des défauts supposés de la libre circulation que des ravages catastrophiques de la finance dérégulée. Je le signale au passage parce qu'on peut tout à fait parler des défauts de la libre circulation. L'avantage pour David Cameron, c'est que pendant qu'il fait ça, il ne parle pas des dégâts catastrophiques de la finance dérégulée.
C'est un peu un bouc émissaire aujourd'hui, la liberté de circuler en Europe. On a l'impression, dans la bouche de certains élus en tout cas.
Dans certains pays et pour certains élus, en effet, et je précise que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème lié à ce phénomène de libre circulation des personnes. Simplement, en termes de hiérarchie des problèmes, est-ce le problème numéro un aujourd'hui d'un pays comme le Royaume-Uni ou d'un pays comme la France? Nous ne le croyons absolument pas. Donc, on a dans certains pays, dans certains discours politiques, effectivement, une insistance particulière sur la libre circulation des personnes qui, je veux le redire, a des aspects positifs et certainement aussi des aspects négatifs. Rien n'est parfait.
Alors justement, les aspects positifs, en tout cas ce que l'on peut dire, c'est que le débat sur l'opportunité de restreindre ou non la liberté de circuler en Europe est nourri par les disparités au sein de l'Union européenne. On sait que ce n'est pas une zone économique et sociale homogène. Et bien vous le disiez, vous évoquiez le cas de la Pologne qui exporte des travailleurs hors de ses frontières. Précisément, beaucoup de ces travailleurs polonais, par exemple, vont travailler en Allemagne. On évoque souvent le cas de ces travailleurs de l'agriculture qui travaillent pour moins cher en Allemagne que les Allemands. Dans l'agriculture allemande, ça fait partie aujourd'hui des choses que l'on reproche à la liberté de circuler, à ce qu'elle permet aujourd'hui, Yves Bertoncini.
Oui, je retiens toujours aussi quand on parle de travailleurs moins chers, qu'ensuite donc les produits sont moins chers et que les consommateurs que nous sommes sont très heureux d'acheter ces produits moins chers. Ce qui avait été assez intéressant au moment de la controverse française sur le plombier polonais, qui n'est jamais venu naturellement, c'est que tous les Français pensent que les plombiers sont beaucoup trop chers, que d'ailleurs ils sont jamais disponibles, mais à l'instant où on leur a dit que peut-être des plombiers viendraient de Pologne en étant beaucoup moins chers, ils ont protesté. C'était très paradoxal et en même temps on voit bien pourquoi, parce que il y avait le sentiment que des travailleurs allaient venir concurrencer des travailleurs français, travailleurs étrangers, Et dans un pays comme la France, qui malheureusement a un taux de chômage très très élevé depuis très très longtemps, eh bien, la valeur travail, enfin l'idée de préserver le travail de ceux qui en ont, s'impose davantage que dans les pays où le taux de chômage est très 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 bas. Mmh. Donc évidemment, il y a une concurrence qui existe en Europe entre les travailleurs. Elle existe pour la vente des produits, elle existe pour la prestation de services. Il peut y avoir des travailleurs, vous l'avez rappelé, qui sont très minoritaires, qui choisissent d'aller s'installer dans un autre pays, hein, c'est 2% en moyenne, 2% de la population, mm-hmm. c'est très peu en réalité.
Et ça représente vous 14 millions d'Européens, hein, je le disais, parce qu'en pourcentage ça ne veut pas dire grand-chose.
Sur 510 millions d'Européens, donc mm-hmm. effectivement, bon, donc c'est très minoritaire, ça existe, et quand ça existe, ça peut mettre en difficulté les nationaux qui étaient sur ces segments. Mais je pourrais vous dire exactement la même chose des traders français qui sont très très nombreux et qui vont à Londres. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils prennent le travail des Anglais? Je pourrais vous dire la même chose des footballeurs européens qui circulent allègrement. Est-ce que je vais vous... Bon, bah, Marco Verratti, au PSG, a pris le travail de Johan Cabaye.
En tout cas, ce que l'on constate, c'est que depuis le dernier élargissement, je le rappelle, c'était en 2008, aujourd'hui, les trois quarts des mobilités sont le fait de citoyens de ces derniers entrants dans l'Union européenne. Donc, l'on constate que, eh bien, ils vont travailler dans des pays plus riches, des pays qui payent mieux, mais... on oublie aussi de dire que eh bien, ces travailleurs qui partent, qui quittent leur pays pour aller travailler ailleurs dans l'Union, eh bien, ils manquent aussi à leur pays.
Oui, naturellement. Là, il y a un problème vraiment sérieux. Mais vous avez raison quand même d'insister sur le fait qu'en Europe, les personnes qui migrent, qui changent de pays, le font pour travailler. C'est d'abord ça. D'ailleurs, la plupart des gens qui migrent dans le monde, c'est encore plus vrai en Europe, ils migrent parce qu'ils veulent aller travailler ailleurs. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour toucher des prestations sociales. Ils migrent. D'ailleurs, ils migrent souvent seuls ou en couple. Mais enfin, ce n'est pas une famille entière qui se déplace. Ils arrivent, ils essayent de trouver un travail. Ce pourquoi ils peuvent évidemment être en concurrence avec les travailleurs qui sont déjà là. Ceci dit, souvent, ils viennent prendre un travail qui n'était pas pourvu. Mmh. Il y a aussi cette dimension qui existe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut marteler parce que sinon, on a la représentation d'Européens qui bougeraient en masse simplement pour s'installer tous ensemble et puis attendre qu'on les nourrisse. Les règles européennes sont extrêmement claires. Il y a un droit de circuler, Jean-François Jamais l'a rappelé, Dominique Jamais, pardon, l'a rappelé. Circuler, ça veut dire on va en week-end, on va se promener, on va faire du tourisme, on va... Voilà. C'est jusqu'à 3 mois, c'est libre, jusqu'à 3 mois. Après 3 mois, si l'on veut résider, il faut prouver qu'on a les ressources pour le faire. Donc on peut être retraité, donc on a une pension de retraite, on peut être étudiant, entretenu par ses parents, ou on doit être travailleur. Et si on n'a pas les ressources pour rester dans le pays qui nous a accueillis, on doit le quitter. Les règles européennes sont parfaitement strictes. Il s'agit donc de les appliquer, non pas de restreindre la liberté de circulation, mais simplement d'appliquer les règles européennes telles qu'elles sont.
Alors on doit quitter le pays, mais là on compte sur la bonne foi des gens ou est-ce qu'il y a des dispositifs existants pour éventuellement éloigner celui qui resterait, profiter du système alors qu'il n'a aucune légitimité à rester, Yves Bertoncini ?
Il y a pour la France des statistiques qui montrent que chaque année des Européens sont éloignés du territoire français. Ça peut être des Allemands, des Espagnols, voilà, ça se fait. Alors ça se fait avec difficulté, puisque par définition, les Européens qui sont entrés dans l'illégalité, d'une certaine manière, puisqu'au bout de 3 mois, ils sont restés alors qu'ils n'ont pas titre à le faire, ben, il faut simplement les rencontrer, les prier de partir. Et c'est la même chose que pour d'ailleurs les migrants qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. La principale filière d'immigration clandestine, ce sont les migrants qui ont obtenu un visa et qui sont rentrés tout à fait légalement dans l'Union européenne et puis qui décident de rester. Les clandestins arrivent par les aéroports. La principale source d'immigration clandestine en Europe, c'est certainement pas les Africains qui arrivent à Lampedusa par bateau. Ce sont les gens qui ont obtenu un visa, qui sont entrés tout à fait légalement par les aéroports et qui ont ensuite décidé de rester. Alors après, deux questions. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que la règle est claire? Oui, elle est claire. Faut-il mieux l'appliquer? Oui, et c'est difficile.
c'est difficile. Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe Institut, Jacques Delors, un groupement d'études et de recherche pour renforcer l'intégration de l'Europe. Nous sommes aussi avec Dominique Jamais, vice-présidente de Debout la République. La question du grand référendum ce matin, je vous la rappelle, est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Vous votez sur sudradio.fr 0826 300 300 pour intervenir à l'antenne. Vous avez aussi les réseaux sociaux pour vos commentaires sur Twitter, vos messages avec le hashtag Sudradio, mais également sur la page Facebook Sudradio.
Sudradio.
9h-11h.
Je vous consulte directement.
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum.
Le grand référendum, Sudradio, apprendre et comprendre. Est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Pour l'heure, vous êtes 64% sur sudradio.fr. Vous prononcez en faveur de cette idée. Je vous lis quelques commentaires, notamment celui de Michael qui proposerait l'établissement d'une immigration choisie à la manière de ce que fait le Canada qui, nous explique-t-il, filtre en fonction des besoins suivant les corps de métier et l'Australie qui demande des garanties financières pour le cas échéant, renvoyer les personnes dans leur pays sans frais de l'État. Finalement, on constate qu'autour de ce débat de la libre circulation en Europe, on ne parle pas tant des retraités ou des vacanciers, mais surtout de cette immigration du travail. Est-ce qu'elle contribue effectivement à la prospérité nationale, ce fantasme de l'immigration qui viendrait profiter des allocations en France? Est-ce que ça a corps, effectivement? Nous sommes avec Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors, et Dominique Jamais, vice-président de Debout la République. Dominique Jamais, Yves Bertoncini mettait l'accent sur le fait qu'effectivement, la libre circulation en Europe, ça permet, quand on a du mal à trouver un emploi dans son pays ou un emploi suffisamment rémunéré, d'aller postuler ailleurs. Yves Bertoncini soulignait que bien souvent, ces étrangers européens qui viennent en France occupent des postes que nos nationaux n'ont pas forcément envie d'occuper. Dominique Jamais, vous souscrivez à ce constat?
Sur ce point, c'est exact, ou c'est à moitié exact, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs professionnels où effectivement l'afflux de travailleurs étrangers sur des chantiers français, par exemple, s'explique par le fait qu'on manque de personnel et par le fait que ce sont des travailleurs à bas coût. Ça fait la prospérité des entreprises du bâtiment. À l'inverse, dans d'autres secteurs, par exemple celui des transports routiers, l'afflux sur les routes françaises, sur les routes européennes, de chauffeurs polonais, roumains, bulgares, qui travaillent dans des conditions et à des conditions que n'accepteraient pas les routiers français, cela a contribué à ruiner pas mal d'entreprises de transport françaises, parmi lesquelles les plus importantes. Vous savez, qu'il s'agisse d'immigration, qu'il s'agisse de mode de scrutin, ou qu'il s'agisse de concurrence internationale, je n'aime pas les généralités ou les dogmes. Vous savez, il y a des gens qui sont pour le majoritaire, d'autres pour la proportionnelle, des gens qui sont pour le libre-échange, d'autres pour le protectionnisme. Tout dépend des circonstances. Si nous étions dans des circonstances plus heureuses en France, je parle pour la France là, si nous étions dans un pays où il n'y aurait pas ce nombre, cette quantité épouvantable, ce chômage de masse terrible, on verrait les choses d'une manière différente. Un de vos auditeurs parlait à l'instant du Canada.
Oui.
Le Canada a des quotas en fonction des origines, en fonction des qualifications. La différence entre les pays importateurs de main-d'œuvre, les pays exportateurs de main-d'œuvre et les pays qui importent peut-être à leur corps défendant et qui exportent malgré eux. Il y a beaucoup de Français qui vont à l'étranger à l'heure actuelle. Est-ce que c'était un accroissement de la richesse de la France? Je ne le crois pas. Mm-hmm. C'est parce qu'ils pensent ne pas trouver en France ce qui les satisferait professionnellement. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler en France. Ça n'est pas, je le crois, avec l'accord de la majorité des Français. Je pense que c'est au détriment de l'emploi en France. À l'inverse, l'Allemagne, à l'heure actuelle, est importatrice de main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée pour son industrie, et de main-d'œuvre moins qualifiée, peu qualifiée ou pas qualifiée du tout pour les besoins de son agriculture. L'Allemagne n'a pas du tout les mêmes problèmes que la France. Mais lorsque M. Bertoncini disait, ce qui est exact, lorsqu'il disait que des travailleurs moins bien payés, ça fait un coût de main-d'œuvre moindre et donc ça fait baisser les prix, c'est tout à fait exact, mais ça fait baisser les prix au détriment des pays où les travailleurs sont mieux payés et on sait à quel point l'emploi par, notamment en Allemagne, de travailleurs polonais est néfaste à l'heure actuelle pour nos agriculteurs, nos éleveurs, nos abattoirs, etc. La Bretagne est confrontée à une véritable catastrophe économique du fait d'une concurrence peu loyale de travailleurs à bas coût qui sont utilisés notamment en Allemagne.
Alors là, c'est tout le problème de l'Union européenne que vous pointez du doigt, Dominique Jamais, à savoir qu'il n'y a pas de convergence économique et sociale, en tout cas de manière assez insuffisante. Et du coup, ces partenaires que sont les membres de l'Union européenne sont aussi des concurrents.
Absolument. Et on a, je crois, par au nom d'une conception politique que l'on peut discuter, mais qui n'est pas méprisable, on a accéléré l'entrée dans l'Union européenne d'un certain nombre de pays qui ne répondaient pas à des critères raisonnables d'admission. Nous voyons les choses et nous parlons en ce moment, nous voyons les choses du point de vue français, nous parlons en ce moment en France du point de vue français. Mais lorsque l'on dit qu'il n'y a que 3,6% de travailleurs étrangers sur le marché européen, c'est vrai. Si l'on dit qu'ils sont 14 millions, cela incite à penser que ce n'est pas insignifiant. Et l'afflux de travailleurs, notamment roumains, bulgares et polonais, est quelque chose de profondément d'abord d'imprévu, de profondément inquiétant. Pourquoi ? C'est parce que en Pologne, il y a 2 millions de Polonais en l'espace de quelques années qui ont quitté la Pologne pour aller travailler dans d'autres pays européens. En Roumanie, sur 25 millions d'habitants, il y en a 2 millions qui sont partis de la Roumanie pour aller travailler dans d'autres pays européens. En Bulgarie, 1 million de Bulgares ont quitté la Bulgarie sur une population de 7 millions d'habitants. C'est-à-dire que l'on voit bien qu'il y a là une espèce d'hémorragie tout à fait comparable à ce que fut au 19e siècle, par exemple, l'émigration des Irlandais chassés par la misère de leurs terres. C'est quelque chose qui prive ces pays d'une main-d'œuvre jeune, d'une main-d'œuvre travailleuse que sans doute ils n'ont pas les moyens d'employer, mais d'une main-d'œuvre qui accepte des salaires, qui exerce une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs français qui n'en ont pas besoin.
Mmh. Yves Bertoncini, ce constat, eh bien, qu'il y a un problème de convergence économique et sociale que l'Union européenne doit relever, eh bien, ça fait partie des choses que vous dites également.
Oui, mais l'exemple de l'Allemagne est très intéressant parce que, prenons l'Allemagne. D'abord, rappelons que l'Allemagne, qui va plutôt très bien, accueille beaucoup plus d'étrangers sur son sol que la France et le Royaume-Uni, y compris d'Européens. Donc, l'équation selon laquelle accueillir des étrangers, ça fait qu'on va mal, est totalement invalidée par les faits. On peut regarder d'autres pays, hein, d'ailleurs l'Autriche, la Suède, plein de pays qui accueillent beaucoup plus d'étrangers que la France et qui vont beaucoup mieux. Alors après, on peut dire qu'il y a des enjeux identitaires. Mais ça, c'est autre chose. Ce ne sont pas les thématiques économiques et sociales que nous évoquons pour l'instant. L'Allemagne, autre exemple intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne vient de décider, les autorités allemandes viennent de décider d'instaurer un SMIC. Un SMIC au niveau national, de facto. Donc effectivement, ça manquait. Maintenant, c'est un élément de convergence, ce SMIC existera. Et donc, y compris en appliquant les règles européennes, par exemple sur les travailleurs détachés, on ne pourra plus avoir en Allemagne des travailleurs roumains qui travaillaient par exemple dans les abattoirs et qui faisaient du tort, effectivement, à une concurrence absolument déloyale aux travailleurs français parce qu'ils pouvaient être payés beaucoup moins que le SMIC.
Ah oui, 3 à 5 euros de l'heure. Hein,
c'était il n'y avait pas de SMIC. Et clairement, nous n'avons pas fait l'Europe pour ça. On n'a pas fait l'Europe pour que des camions de viande passent la frontière allemande la nuit pour être dépecés par des bouchers polonais payés à 3 ou 4 euros aux pièces et pour que ça revienne ensuite en Belgique le lendemain. Mais ça, le fait de créer un SMIC en Allemagne va y mettre un terme à ces pratiques-là. Et donc, vous avez un exemple allemand, encore une fois l'exemple d'un pays que nous envions souvent, hein, ici, depuis la France, qui va très bien en employant des Européens quand il faut qu'ils emploient des Européens, et qui vient de rectifier ses règles salariales, et cela permettra de lutter contre certains abus.
Alors, on va continuer à en parler justement de ces abus, effectivement, qui nuisent, eh bien, à l'image de la liberté de circuler en Europe, qui, rappelons-le, est un des principes, un des piliers de notre citoyenneté européenne. Je vous rappelle la question du jour, faut-il restreindre la liberté de circuler en Europe? Vous êtes 69% en faveur de cette idée sur sudradio.fr. Vous continuez à voter, bien évidemment. Vous avez également la possibilité de prendre la parole à l'antenne. Venez nous dire ce que vous en pensez, 0826 300 300, 15 centimes la minute, ainsi que les réseaux sociaux également, la page Facebook Sud Radio notamment. On marque une courte pause et on revient dans un instant.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. Est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Nous sommes avec Dominique Jamais, vice-présidente de Boule à République, et Yves Bertoncini, directeur de notre Europe Institut Jacques Delors. Un autre exemple, eh bien, de ce que c'est la liberté de circuler en Europe, et puis eh bien aussi de cette concurrence que les États européens se font les uns aux autres. C'est un article qui était paru dans l'Express voici quelques mois, qui évoquait le cas du Portugal, paradis fiscal pour les retraités. Vous êtes retraité, vous voulez vous installer aller au Portugal pour vous y rester 6 mois dans l'année, eh bien vous pouvez bénéficier d'une exonération fiscale pendant 10 ans. 10 ans. Est-ce que c'est ça l'Europe de la libre circulation, Yves Bertoncini?
Le Portugal, c'est un pays qui a connu une crise très violente, très sévère, qui essaie de s'en sortir et qui essaie de s'en sortir avec, avec ses atouts. Alors, qu'est-ce qu'a le Portugal ?
Eh ben, le soleil et la mer.
Pour les retraités, eh oui. Voilà. Le soleil, la mer.
Ce qu'on a aussi, nous, hein, d'ailleurs.
C'est un signal fiscal. Oui, mais alors, c'est très intéressant que vous souligniez cela, parce que la France accueille bien plus de retraités que le Portugal, et ça va continuer. Donc les pays européens sont unis et en même temps ils sont effectivement concurrents à l'intérieur d'un espace de liberté, c'est-à-dire qu'il y a d'ores et déjà des Français, moi j'en connais, qui ont pris leur retraite au Portugal, et non pas parce qu'ils sont d'origine portugaise d'ailleurs, simplement parce qu'ils ont voulu aller vers le soleil et puis ils ont choisi le Portugal. D'autres vont en Espagne, il y a beaucoup 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 d'Anglais qui sont aussi dans le sud-ouest de la France, qui cherchent le soleil. Voilà, il se trouve que l'humanité européenne à la fin de son travail cherche le soleil et donc ne va pas prendre sa retraite en Écosse ou en Suède, donc elle va vers le Portugal. Alors à l'intérieur de ça, ou vers le sud plus exactement, il y a effectivement ces signaux qui sont envoyés, ces signaux qui sont des signaux de détresse presque, hein, du Portugal qui essaie de s'en sortir avec cet appel. Eh bien, nous verrons combien d'Européens seront déterminés à aller prendre leur retraite au Portugal par rapport à ceux qui le faisaient déjà, et je pense que ça restera relativement marginal.
Mmh. Ben oui, parce que quand on parle de restreindre la liberté de circuler en Europe, ça pourrait aussi vouloir dire ça, hein, empêcher nos retraités d'aller profiter du soleil portugais et de cette exonération fiscale que leur promet Lisbonne, Dominique Jamais.
Non, mais comparons des choses comparables. Les retraités français, par exemple, qui viennent s'établir au Portugal, ne concurrencent pas les maçons portugais. Ils apportent plutôt, ils ont un pouvoir d'achat supérieur.
Ah, mais c'est des rentrées fiscales qui échappent à la France quand même, Dominique Jamais.
Ah, tout à fait, oui, du point de vue français, effectivement, on peut le regretter. Mais je veux dire que l'on comprend que le Portugal accueille avec joie ses retraités qui ne viennent en aucune manière concurrencer ses nationaux. Chaque pays, vous savez, ben justement, l'exemple du Portugal, on pourrait en prendre d'autres, dans un sens ou dans l'autre. Chaque pays devrait pouvoir moduler sa législation en fonction de sa conjoncture, en fonction de ses intérêts, en fonction de la situation du moment. Que l'Allemagne prospère, accueille avec plaisir et même demande, sollicite l'entrée de nombreux travailleurs étrangers de tous les niveaux sur son sol, c'est un fait patent. La France n'est pas, que je sache, hélas, dans la même situation que l'Allemagne à l'heure actuelle.
Mais le problème, donc, c'est le chômage, parce qu'effectivement, si on avait l'opportunité d'attirer ces travailleurs européens, mais qui ne sont pas français, pour travailler moins cher, dans un contexte de plein emploi, eh bien, ce serait un formidable atout pour la compétitivité de la France.
Mais bien sûr, et la France, entre 1945 et 1985, disons, a accueilli des millions de travailleurs étrangers qui n'étaient même pas d'ailleurs, qui étaient pour la plupart extra-européens. Mais il y avait aussi beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais, mais beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Maghrébins, d'Africains. On s'en félicitait et ça ne posait aucun problème. Et au passage, d'ailleurs, il faut régler son compte. Pendant que c'est encore possible, à l'idée que les Français seraient xénophobes. Les Français ne sont pas xénophobes. Ils ont accueilli... si la population de la France a augmenté comme elle l'a fait depuis 1945, les personnes d'origine étrangère n'y sont pas pour rien. Et beaucoup d'entre elles se sont intégrées. C'est la situation actuelle qui fait que les Français sont en effet très réticents à l'idée de voir venir des travailleurs étrangers concurrencer pour des salaires moindres les travailleurs français, ou du moins les Français qui ont encore du travail.
Oui. Alors, Dominique Jamais, vous dites qu'il faut régler son compte à cette idée que les Français seraient xénophobes. Je vous propose aussi qu'on règle aussi son compte à cette idée, eh bien, de ces étrangers qui viendraient profiter de nos prestations sociales. Yves Bertoncini, justement, l'Institut Jacques Delors a travaillé sur la question. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que ces 3% de travailleurs européens étrangers travaillant en France, eh bien, vivent de nos prestations sociales ? Qu'en est-il de cette réalité-là ?
Non, mais là-dessus, alors les études sont toutes convergentes, mais elles n'ont aucun impact dans le débat public, je veux le rappeler, mais elles sont convergentes. Elles disent quoi, les études ? Mais pas seulement sur la France, le Royaume-Uni, la Suède, etc. Elles disent que les personnes, les Européens qui viennent s'établir dans un pays, tenter leur chance, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le droit de s'établir. Ils peuvent tenter leur chance, et si au bout de 3 mois, ils réussissent à trouver un travail, ils y restent.
Ce qui est court, en plus, comme délai, quand même, 3 mois.
Oui, c'est court. Mais souvent, ils ont pu trouver le travail avant d'y arriver, etc. Bon. Qui sont-ils ? Le profil type, ce sont des gens en âge de travailler, donc, qui travaillent, qui sont souvent célibataires ou en couple. Et donc, concrètement, pour l'économie, mais aussi pour le système social du pays, ils rapportent. Ils ne coûtent pas. Évidemment, ils coûtent un peu, s'ils peuvent être malades, etc., ils scolarisent leurs enfants, etc., mais ils rapportent. Simplement, pour des raisons de structure démographique. Il y a très peu de petits-enfants, il y a très peu d'adultes ou de vieillards ou de retraités, oui. Donc ils rapportent. Ça, ce sont les chiffres, ils disent tous la même chose. Dans 20 ans, on pourra dire les choses différemment, puisque s'ils sont restés là et qu'ils deviennent retraités, ils contribueront moins et ils coûteront plus. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait clair. Simplement, ce sont des études qui n'ont pas d'impact sur le débat public sur ces sujets, parce que c'est un débat qui est beaucoup plus passionnel et qui, effectivement, globalise l'étranger sous la forme d'un Polonais comme d'un Africain, alors qu'il s'agit de deux régimes juridiques parfaitement différents. Le Polonais a le droit de tenter sa chance à Londres. D'ailleurs, le Royaume-Uni a ouvert grand les bras aux Polonais dès l'adhésion de la Pologne, ce que la France n'avait par exemple pas fait, alors que l'Africain n'a pas le droit, il doit demander un visa et avoir un permis de séjour.
Alors, j'aimerais qu'on parle aussi rapidement, on va être un peu pris par le temps, mais on parlait tout à l'heure de l'espace Schengen, la libre circulation dans l'Europe, eh bien, au sein de l'espace Schengen est facilitée du fait qu'il n'y a plus de barrières fixes aux frontières. Ça pose aussi la question des frontières extérieures de l'Union européenne. On a vu l'année dernière avec ce drame de Lampedusa, 300 morts des immigrés africains qui tentaient la traversée de l'Atlantique, et ce flux continue, notamment du fait des printemps arabes et des révolutions qui se déroulent actuellement, des combats qui ont lieu notamment en Syrie. Aujourd'hui, on note quand même qu'il y a un problème aux frontières de l'Union. Il y a une absence totale de coordination, en tout cas des politiques frontalières. Et bien souvent, l'Italie s'est retrouvée par exemple seule pour faire face à ce flot de clandestins qui ne voulaient pas forcément rester en Italie. Il y a aussi ce problème de coordination européenne. Là encore, c'est un problème de concurrence entre les États, vous pensez, Dominique Jamais ?
Naturellement, oui. On laisse l'Italie porter une trop large part du poids que représente cet afflux d'immigrés venus, pour l'essentiel, d'Afrique et, depuis quelque temps, de Syrie ou du Proche-Orient. Vous le disiez vous-même, et là on élargit un peu le sujet évidemment, je ne dirais pas qu'on change de sujet, mais le chaos qu'ont créé les révolutions arabes et les interventions malencontreuses des pays européens sur le littoral africain, notamment en Libye, explique largement cet afflux. On est confronté là, vous le savez bien, mais il est bon de le rappeler, on n'en parle pas assez. Nous sommes confrontés avec cet afflux d'étrangers, d'immigrés clandestins, ou illégaux en tout cas, notamment en Italie, nous sommes confrontés à un problème où il y a deux façons de voir les choses. Et souvent on les mélange, il faut les distinguer. En tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'être humain, on ne peut que comprendre les motivations, la souffrance et, comment dirais-je, souhaiter que soient accueillis de la manière la plus humaine possible ceux qui, chassés par la misère ou par la guerre, vont vers les rivages de l'Europe. Mais en tant qu'État, en tant qu'institution politique, on ne peut pas laisser se déverser, déferler sur l'Europe un flot incontrôlé de gens, alors qu'ils souvent n'ont aucune qualification et n'apportent rien, qui viennent ou bien qui viendront grossir les rangs des chômeurs ou bien qui auront des salaires de misère et qui ne trouveront pas dans l'Europe l'Eldorado qu'ils y ont cherché. Il faudrait effectivement aider l'Italie, prendre notre part des frais que représente la surveillance que mènent les Italiens à l'heure actuelle en Méditerranée.
Oui, aider les Italiens, ne pas les laisser seuls face
Mais il faudrait aussi, oui. Et c'est ça la seule politique possible, il faudrait évidemment aider au développement des pays africains, des pays non-émergents.
Que vous développiez en début d'émission, effectivement, apporter une aide pour aider les populations à se fixer, à rester.
Moyen de retenir les gens chez eux.
Merci Dominique Jamais, vice-présidente Debout la République. Dans un instant, on va faire les 60 secondes. Restez avec nous. Vous votez sur sudradio.fr. 69% toujours de voix favorables à l'idée de restreindre la liberté de circuler en Europe. Vous participez aussi à l'antenne 0826 300 300 15 centimes la minute.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. Est-ce qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe? Nous sommes avec Dominique Jamais, vice-président de Debout la République, et Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Messieurs, c'est la fin de l'émission. On va procéder à un petit jeu dont on est familier dans l'émission, les 60 secondes. Je vais vous demander tour à tour, eh bien, de nous dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre cette idée de restreindre la liberté de circuler en Europe. 60 secondes chacun à votre tour. Je commence par vous, Dominique Jamais. 60 secondes pour nous dire si vous êtes pour ou contre la restriction de la liberté de circuler en Europe. C'est à vous.
Eh bien, écoutez, je pense avoir été clair, mais je vais me résumer en 60 secondes. Libre circulation, oui, naturellement, oui. Rapprochement physique, culturel entre les citoyens des divers pays d'Europe, naturellement, oui. Libre installation, non. Ou alors sous contrôle. C'est-à-dire sous réserve que l'installation d'étrangers chez nous corresponde aux intérêts et aux possibilités du pays d'accueil. Et concurrence déloyale, évidemment non, et elle doit être réprimée beaucoup plus sévèrement que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Tout ce que j'espère, tout ce que je souhaite, et à la France et aux étrangers, c'est un retour de la France à meilleure fortune qui nous permette, qui fasse en sorte, qui aboutisse à ce que ce problème ne se pose plus dans les termes où il se pose aujourd'hui.
Merci Dominique Jamais. Libre circulation, oui, si c'est pour un rapprochement culturel, pour du tourisme, ce genre de choses. Libre installation, non, du moins sous contrôle, car c'est générateur d'une concurrence déloyale qui doit être empêchée, sinon réprimée. Et vous appelez donc un retour à la France à davantage de prospérité. Mais là, je pense que tout le monde est d'accord avec vous, hein, pour dire
oui.
Cela. À votre tour, Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. 60 secondes pour nous dire si vous êtes pour ou contre l'idée de restreindre la liberté de circuler en Europe. C'est à vous.
Je suis contre. Il ne faut pas restreindre la liberté de circulation en Europe. Il faut simplement appliquer les règles qui l'encadrent d'ores et déjà, notamment la directive de 2004 qui l'encadre. La liberté de circulation en Europe n'est pas le problème numéro un de l'Europe. Certainement pas. C'est même une solution, la libre circulation, pour des milliers et des millions de Français, d'Européens. Il y a beaucoup de Français qui, ce matin, pendant que nous parlions, sont allés travailler ailleurs en Europe. 300 000 Français chaque jour passent la frontière. Il y a seulement 15 000 Européens qui passent la frontière pour venir travailler en France. Et donc, on ne va pas restreindre la liberté de circulation de ces Français, les assigner à résidence. Donc, il faut appliquer les règles qui encadrent la libre circulation, mieux les appliquer dans un esprit de solidarité et de coopération, y compris aux frontières extérieures, en coopérant davantage, en donnant plus de moyens à Frontex et à tous les Européens qui contrôlent nos frontières communes.
Merci Yves Bertoncini, vous êtes contre l'idée de restreindre la libre circulation en Europe. Il faut appliquer les règles qui l'encadrent, dites-vous. Ce n'est pas le problème de l'Europe, c'est même la solution. Et vous évoquez effectivement ces 300 000 Français qui d'ailleurs passent la frontière tous les jours pour aller travailler à l'étranger. J'ajouterais quand même pour l'information que l'Europe aujourd'hui veut inciter à davantage les Européens à circuler, à aller s'installer ailleurs. C'est un projet d'acte pour le marché unique et qui envisage notamment la création, je crois, d'une carte professionnelle européenne ainsi qu'un visa d'itinérance. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Yves Bertoncini. Hein.
Je ne vous arrête pas.
Merci à vous tous les deux d'avoir participé à ce grand référendum. Dominique Jamais, vice-présidente de Debout la République, et Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Le grand référendum est bien continu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Sud Radio et sur sudradio.fr. Résultat final du grand référendum, vous êtes 69% encore à penser qu'il faut restreindre la liberté de circuler en Europe.